Rádio Alfa, 12 horas.
Bonjour à tous. Le variant britannique du coronavirus sera majoritaire en France autour du 1er mars. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le professeur Arnaud Fontanet dans les colonnes du journal du dimanche. L'épidémiologiste estime que d'éventuelles nouvelles restrictions dépendront de notre capacité à contrôler la progression de ce variant. Il était responsable de 3,3% des nouvelles contaminations en France début janvier, un chiffre qui est monté à 14% à la fin du mois. Les commerces, les lieux religieux et les transports publics n'accroissent pas pour autant, selon lui, le risque d'infection. Selon Arnaud Fontanet, la transmission se fait beaucoup plus en famille ou entre amis. Le covoiturage serait également un facteur aggravant, car l'espace est réduit et le port du masque pas systématique. Arnaud Fontanet qui déclare qu'un confinement, s'il avait été accepté par la population, aurait permis de soulager les hôpitaux et de reprendre le contrôle de l'épidémie, même s'il reconnaît que le coût économique, social et scolaire aurait été très élevé. Pendant ce temps-là, Christine Lagarde annonce que l'annulation de la dette Covid est inenvisageable. La présidente de la Banque Centrale Européenne juge que ce serait une violation du traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des États. Elle s'oppose donc à l'appel lancé vendredi par une centaine d'économistes. Ils demandaient l'annulation de la dette publique détenue par la BCE pour faciliter la reconstruction sociale et écologique après la pandémie de Covid-19. Dans l'actualité, également le pic de la crue, attendu pour demain en Charente-Maritime, situation critique, notamment à Saintes. Le fleuve devrait dépasser les 6 mètres dans la journée, près de 2000 habitations sont menacées. Au total, 9 départements sont toujours en alerte orange ce dimanche. Des crues qui ont entraîné la mort d'un homme de 70 ans en Guadeloupe. Son corps a été retrouvé samedi après 3 jours de recherche à Petit-Bourg, suite à une brusque montée des eaux de rivière. Et puis du rugby, l'entrée en compétition des Gallois et des Irlandais ce dimanche dans le tournoi des 6 nations Pays de Galles-Irlande. C'est à suivre à partir de 16h. Hier, la France a pris la tête du classement après avoir largement dominé l'Italie 50-10. L'Écosse a également créé l'exploit en Angleterre en battant le 15 de la Rose 11-6. Première défaite à domicile des Anglais face à l'Écosse depuis 38 ans. Voilà pour l'essentiel de l'info. Très bonne journée à tous.
Domingo às 14h25 e quarta às 9h30 da manhã, esteja atento ao programa O Livro da Semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian. 7P, Boulevard Jourdan, em Paris 14, na Cité Universitaire, entrada sob marcação.
E tu, achas que tens uma voz bonita?
Ou até sexy?
Que chega a quem está longe?
Olá!
E que também fala ao ouvido?
Gostas de rádio e queres usar a tua voz?
Então participa no
casting de vozes
da Rádio Alfa. Poderás vir a ser uma das nossas vozes.
Visita radioalfa.net ou as nossas redes sociais,
onde vais encontrar o texto para o casting.
Grava a tua voz,
mesmo com o teu smartphone, e envia para o e-mail
radio@radioalfa.net
ou através de mensagem privada na nossa página do Facebook.
Agora,
dá o teu melhor e junta a tua voz à nossa.
À nossa.
À nossa.
À nossa.
Société Générale propose une offre assurance habitation. On en parle aujourd'hui avec Arnaud Chaplin. Bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi avez-vous choisi Société Générale pour votre assurance habitation ?
Moi j'étais déjà client chez Société Générale et quand j'ai voulu acheter mon premier appartement, je suis allé voir ma conseillère qui m'a aussi proposé une assurance habitation.
Vous aviez quand même comparé votre assurance à d'autres avant de prendre une décision, j'imagine ?
Oui, et l'offre me convenait tout à fait, il y avait des avantages. Elle était adaptée à mes besoins, moins chère et du coup j'ai économisé plus de 100 euros par rapport aux autres propositions. Mmh. Et ma conseillère, elle a juste été géniale, elle m'a bien expliqué et j'ai tout compris alors que j'y connaissais rien du tout.
Alors depuis, est-ce que vous avez eu un sinistre à gérer ?
Oui, j'ai eu un dégât des eaux. Ils ont été super réactifs et en moins de 2 semaines, je crois, l'expert est passé et les réparations ont pu commencer. Et aujourd'hui, tout est réglé. Donc franchement, ils ont été super efficaces.
C'est important. Merci Arnaud.
On en parle. Contrat assuré par Sogissur. Retrouvez toutes les informations sur societegenerale.fr ou en agence. Société Générale est un intermédiaire d'assurance immatriculé auprès de l'ORIAS.
Les moteurs e-tech hybrides sont nés chez Renault grâce à notre expertise en F1. Il a fallu des mécaniciens comme Alain, des ingénieurs comme Emma ou des pilotes comme Fernando pour concevoir la technologie Renault e-tech. Venez découvrir dès maintenant Renault Capture hybride rechargeable et profitez aussi de Capture en version essence à partir de 189 euros par mois avec EasyPack, 4 ans d'entretien et garantie inclus. Pour Capture Zen TCE 90, LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2800 euros. Offre sous condition de reprise jusqu'au 28 février, si accordiaque. Voir Renault.fr.
Carrefour. Chaque semaine chez Carrefour, découvrez nos produits frais à prix imbattable. Et oui, on s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Par exemple, jusqu'à ce soir, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, le lot de deux mangas finés est au prix imbattable de 1,49€. Et si malgré tout vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour.
Hors du lot 99 centimes, origine Pérou, variété Kent, catégorie 1, calibre 8-9. Modalité sur carrefour.fr.
C'est les soldes chez Cdiscount. Profitez d'offres exceptionnelles sur de nombreux produits, jusqu'à moins 80%. Retrouvez des milliers d'articles en high-tech, électroménager, bricot, sport, meubles, déco. Et en plus, la livraison est gratuite dès 25€ d'achat. Faites le choix du e-commerce français avec Cdiscount. Et retrouvez-nous vite pour les soldes du 20 janvier au 16 février inclus.
Cdiscount.
Sur les produits signalés, voir conditions sur le site.
La paire. Pour Constance, ce qui compte, c'est de monter sa cuisine de rêve en amoureux ce week-end. Ouh. Mais pour Alain, c'est plutôt qu'on lui pose sa cuisine vite et bien, et avant le week-end.
La paire, bonjour.
Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Jusqu'au 22 février chez La Paire, la pose de votre cuisine est à 1 euro. La Paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr.
Carrefour, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie hypermarché. Quand on fait ses courses et que des 100€ dépensés sur tout l'alimentaire, on gagne 20€ en bon d'achat, ben on fait... Tu m'étonnes. Alors rendez-vous dans vos hypermarchés Carrefour jusqu'à demain pour profiter de 20€ en bon d'achat. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour.
Hors vin, champagne et parapharmacie, offre limitée à deux bons d'achat de 10 euros chacun par foyer, le premier valable du 8 au 14 février, le deuxième du 15 au 21 février. Modalité magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
J'ai entendu parler du plan de relance, mais concrètement, c'est quoi ?
Le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros pour rebondir et bâtir la France de demain avec un objectif fort, accélérer la transition écologique.
D'accord, mais au final, ça change quoi pour moi ?
C'est très concret, vous allez voir. Vous bénéficiez par exemple d'aides avantageuses pour acheter un véhicule électrique ou remplacer une vieille voiture par une nouvelle moins polluante. Vous pouvez aussi isoler votre logement et faire des économies de chauffage ou d'énergie.
Et pour les entreprises, il y a des aides ?
Bien sûr, les TPE-PME, elles aussi sont aidées pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments, mieux chauffer leurs locaux et moins la planète. Particuliers, entreprises, collectivités locales, découvrez toutes les mesures dont vous pouvez bénéficier sur plandereLance.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Passagem de nível. Artur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós neste domingo, dia 7 de fevereiro. Cuidado que anunciam de Geneve, mas enfim, isso é outra história. E na vossa companhia até às 13h30, em mente aqui vai, vamos fazer o balanço das eleições presidenciais em Portugal, que tiveram lugar no dia 24 de janeiro, e a polémica em relação ao voto presidencial dos portugueses residentes no estrangeiro dá muita coisa para dizer, mas não só, falaremos igualmente na situação aqui na imigração e os consulados. O nosso convidado vai ser Carlos Gonçalves, deputado do PSD pelo Círculo da Europa e antigo secretário de Estado das Comunidades. Depois falaremos de um filme D'Étoile en Étoile, do realizador António Amaral, que obteve o prémio do júri no Festival Internacional do Cinema Independente de Casablanca. E depois vamos falar de turismo. Turismo, nesta altura, porque não, apesar das contingências da pandemia, Turismo de Portugal lançou um desafio para um turismo mais sustentável. Teremos connosco o diretor de Turismo de Portugal em França, João Pierre Pinheiro. E depois, dado que as fronteiras estão praticamente fechadas, ou recolher obrigatório, talvez seja uma ocasião para cozinhar boas receitas portuguesas, e isto com o livro Portugal Balade de Gourmande, Recette et Art de Vivre, de Sylvie da Silva, edição Mango. Mas para já, Carlos Gonçalves, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estar connosco.
Muito boa tarde, muito boa tarde.
Ora, Carlos Gonçalves, temos que fazer uma constatação, houve uma abstenção 54,55%, é mais elevada em eleições para o chefe de Estado. Como é que podemos compreender isto? Confinamento, Covid, talvez seja uma das razões?
É evidente que a questão da pandemia teve consequências na abstenção. Mas também é verdade que, há uns tempos a esta parte, a participação nos atos eleitorais, não só em Portugal, mas sobretudo nas democracias ocidentais, nós estamos a conhecer algumas dificuldades e, apesar de tudo, temia-se uma percentagem bem superior àquela que tivemos, o que é de abstenção, o que quer dizer que, não sendo, digamos, uma participação das quais todos nós possamos estar orgulhosos, todos aqueles que acreditam nos projetos democráticos, é verdade que, apesar de tudo, incluindo neste caso também as consequências da pandemia, o resultado da abstenção no Plano Nacional foi um pouco acima daquilo que era esperado e, portanto, acabou por haver uma nota final um tanto ou quanto positiva, ou seja, os portugueses, apesar das dificuldades que conhecem neste momento da sua situação, a questão sanitária, acabaram por se deslocar dentro das suas possibilidades às mesas de voto. Na imigração, aí há outras razões que justificam essa abstenção.
Mas uma coisa certa também, bom, o Marcelo Rebelo de Sousa era dado como favorito, ia ser reeleito, os dois principais partidos apoiavam, há que ver que, bom, basta ver o deputado do PS pelo Ciclo da Europa, Paulo Pires, que apoiou a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, de maneira que os portugueses disseram também, bom, está eleito, está feito, não vale a pena deslocar, mas o voto é um direito, mas antes mais um dever, não?
Pode ter acontecido isso, mas é evidente que para quem entende que a democracia e que a liberdade são fundamentais, a melhor forma de o exprimir é através da participação nos atos eleitorais. Nós somos uma democracia jovem, é preciso que as pessoas tenham noção disto. Uhum. Houve muitos que lutaram por essa possibilidade, as pessoas poderem escolher livremente aqueles que entendiam que poderiam estar à frente das decisões do país. E, portanto, nós temos, e aqui os grandes partidos políticos e todos os agentes políticos e não só da sociedade em Portugal, temos que eventualmente olhar para isto com muita atenção, até porque começam cada vez mais a aparecer discursos populistas no nosso país, o que é que realmente nos está a acontecer a nós, mas não é só a nós, aqui em França, onde eu estou neste momento, temos um problema parecido. E, portanto, há aqui um momento de reflexão e a todo este sistema a política em Portugal tem que ser pensada, tem que ser pensada, é realmente uma reflexão que não é fácil, uma reversão que tem que merecer a atenção de todos, e eu quero acreditar que isso possa vir a acontecer para aumentar a participação e para que os cidadãos sintam mais vontade para poder participar. Quanto aos resultados eleitorais, é evidente que o Partido Socialista, ao não apresentar um candidato próprio, deixou aqui um espaço muito grande aos seus deputados, aos seus militantes e aos seus simpatizantes para escolher entre os candidatos que se apresentavam a votos. Uns escolheram o professor Marcelo Rebelo de Sousa, outros escolheram outros candidatos. É verdade que surpreende que um partido que ainda por cima está no governo não apresenta um candidato à presidência da República, mas isso é um assunto interno e, como é evidente, criou aqui uma grande abertura para o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vencer de forma clara as eleições, mas o sentimento que os portugueses têm em relação aos 5 anos que exerceu o cargo, que eu acho que é um sentimento positivo, nomeadamente aqueles que residem no estrangeiro, porque apesar do Presidente da República, em termos de funções e as suas prerrogativas não serem, digamos, muito, muito significativas na ação política junto às comunidades, ele fez aquilo que devia, foi entender este Portugal partido pelo mundo, de incluir nas preocupações do todo nacional as questões das comunidades portuguesas e, no plano simbólico, começar a organizar o Dia de Portugal, de Camões e das próprias comunidades, nas próprias comunidades. E, portanto, ele ganhou o carinho dos portugueses residentes no estrangeiro, independentemente do seu ideário político, porque quem está fora, por vezes, estas questões, muito particularmente no reconhecimento do próprio país e na principal figura do Estado, que é o Presidente da República, foi para eles importante e também não me surpreenderam os resultados da imigração. Agora, para mim, sendo eu militante do Partido Social Democrata e durante a minha vida, até nós, eu e o Artur Silva, tivemos a oportunidade de partilhar momentos com o professor Marcelo Rebelo de Sousa
noutra
época. É realmente para mim um motivo de grande orgulho de ver o Presidente da República ser Marcelo Rebelo de Sousa para um segundo mandato, mas isto é uma questão já de foro, como é evidente, individual, pessoal e setorial daquilo que é o meu partido.
Ora, o segundo aspecto negativo, para além da abstenção bastante elevada, foi o facto do candidato da extrema-direita racista, xenófobo, ter ficado em terceiro lugar. Ora, num país que viveu durante décadas debaixo da bota do fascismo, foi necessário 25 de Abril. O que é que se está a passar em Portugal? Como é que vê isso pessoalmente, Carlos Gonçalves?
Isto leva-nos à primeira parte das minhas palavras, em que é preciso refletir sobre tudo isto. Os grandes partidos políticos têm que pensar. As pessoas estão um bocado confiam cada vez menos na política, confiam cada vez menos nos políticos, e por isso cria, como é evidente, uma abertura muito grande para aqueles discursos populistas que são, pura e somente, pessoas que apresentam, ou candidatos, ou partidos, que apresentam propostas muito fáceis para resolver problemas que todos nós sabemos muito complicados. E, portanto, eu sempre o disse, acho que até tive a oportunidade de dizer na Rádio Alfa, que em Portugal, as pessoas em Portugal pensavam que isto não podia acontecer, mas é evidente que iria acontecer mais dia menos dia. Nós éramos, digamos, um oásis na Europa Ocidental. Abriu-se um espaço para aparecer um partido como este, que neste momento ainda é um partido que está numa fase ainda de consolidação, mas não deixa de ser preocupante o resultado eleitoral no território nacional, mas também é preocupante o resultado eleitoral nos círculos de imigração, nomeadamente no círculo da Europa, que, por exemplo, a Suíça, onde o candidato André Ventura teve um resultado muito, muito significativo e que surpreendeu tudo e todos. Nós sabemos que em países de comunidades portuguesas, da nossa comunidade, seja na Europa ou fora da Europa, começou a aderir aos discursos políticos de partidos muito próximos do partido de André Ventura, neste caso a Frente Nacional. Eu até costumo dizer às vezes para a comunicação social portuguesa que não conheço o Chega, mas conheço bem a Frente Nacional ou a Rassemblement Nacional, e quando os conheço é fácil de perceber que já temos aqui um grave problema. E realmente nas comunidades a surpresa é maior, porque nós sabemos porque é que muitos portugueses saíram de Portugal. Saíram porque o país não lhe dava uma resposta de futuro para a sua vida pessoal, saíram porque não concordavam com a situação política do país, saíram porque quiseram evitar a guerra colonial, e sinceramente ver esta comunidade apoiar um partido que tem que investigar muitas vezes a questão dos migrantes, eu sinceramente não posso deixar de estar preocupado, mas não importa aqui eu estar-me a lamentar, não é solução para nada. Estar a dar muita visibilidade a esse partido também não é a solução para nada. A solução é tentar falar com os eleitores e com as pessoas que votaram em André Ventura para lhes explicar o que está em causa e, muito particularmente, exercer a função como político de forma a que dê condições para aqueles que nestas eleições votaram André Ventura, certamente como voto de protesto, possam, no futuro, escolher partidos da área, digamos, que eu considero democrática, apesar de reconhecer que o partido Chega.
Até agora é legal.
E vai ser difícil, nós vivemos este discurso aqui em França há uns anos atrás. É extremamente complicado, porque a democracia é isto mesmo. A democracia é, dentro daquilo, é aceitar todas as opiniões. E aqui temos uma opinião realmente foi em causa da democracia, mas que joga, digamos, no tabuleiro da democracia. Isto é que é realmente preocupante, quando há partidos que não respeitam os valores democráticos, mas depois que se inserem na vida democrática e têm direito à participação política num país democrático, porque a democracia lhes dá uma perspectiva. Portanto, há aqui, digamos, uma contradição, mas contra esta contradição convém que todos nós, eu quando digo todos nós, digo todas as forças políticas daquele arco que eu considero democrático. E, portanto, aqui nós temos que convergir em algumas matérias, ou temos que convergir mais em algumas matérias para impedir o crescimento dos partidos populistas.
Carlos Gonçalves, bom, eu queria passar a esse assunto, mas agora que fica uma pequenina anedota. Primeira vez que o Sr. Jean-Marie Le Pen veio aqui no quadro da campanha eleitoral para as presidenciais, convidámos todos os candidatos, evidentemente, ele perguntou-me à parte, Monsieur da Silva, sabe de arranjapada, de mandite? Bom, eu olho para ele e digo, Monsieur Le Pen, on est en démocratie. Bom, isto ora, é só uma... Mas, ora, Carlos Gonçalves, tem defendido, o PSD defendeu, e Marcelo Rebelo de Sousa, presidente, defendeu também, que relativamente às eleições europeias e eleições presidenciais, que o voto possa ser tanto por correspondência como presencial. Isso, aparentemente agora mesmo a esquerda parece dar uma certa abertura ao PS. Será que vamos conseguir resolver isso? E o que implicaria que, bom, haveria muito menos abstenção e mais participação da diáspora na eleição presidencial, por exemplo?
Nós chamamos a atenção para esta questão há bastante tempo. E em 2017, quando o PSD e também o Partido Socialista, através do governo, apresentaram a proposta do recenseamento automático, que permitiu aumentar de forma significativa o número de recenseados, que passou de cerca de 300 mil para cerca de 1,5 milhão, eu tive a oportunidade, eu e os meus colegas do meu grupo parlamentar, de chamar a atenção que nós estávamos a dar a possibilidade, a abrir o direito a muitos portugueses para poderem participar num ato eleitoral, mas depois não havia condições técnicas para o fazer.
Nós não podemos pedir a quem reside no estrangeiro tenha que fazer centenas ou milhares de quilómetros, em alguns casos, para poder ao seu consulado votar. Ou seja, as pessoas têm o direito de votar, mas depois não conseguem exercer esse direito. E por isso, apresentámos na altura uma proposta para associar o voto postal, ou seja, o voto de correspondência, ao voto presencial, também para as eleições presidenciais e também para as eleições europeias. E esta proposta foi chumbada em 2018. Ou seja, estávamos bem a tempo de ter resolvido o problema para estas eleições que decorreram já no início de 2021. Depois chegou o período de campanha eleitoral, esta agora, e começaram-se a ouvir um conjunto de vozes, e o Artur Silva fez referência a algumas pessoas ligadas à área mais à esquerda, que no Parlamento têm sido contra esta alteração, a dizer que realmente teríamos que avançar para uma alteração da legislação eleitoral. O próprio Presidente da República, defendendo aquilo que já tinha defendido no Luxemburgo há uns anos atrás, pretende a uniformização da metodologia de voto, ou seja, que em todas as eleições se vote da mesma maneira, e também ele apelou a consensos para que se pudesse acrescentar ao voto presencial o voto por correspondência. E não ignorando estas declarações, e sobretudo não ignorando a abertura que parece existir de alguns quadrantes políticos para eventualmente aprovar uma proposta que proponha também o voto por correspondência para estas eleições, nós imediatamente, na mesma semana, portanto as eleições foram domingo, nós apresentámos na sexta-feira, retomámos o projeto que apresentámos em 2017 e 2018, propondo novamente que haja a possibilidade de votar por correspondência ao quem quiser ir ao consulado para as eleições presidenciais europeias, porque a legislativa já está consagrada na lei, e também com uma alteração que é que os votos por correspondência não serão enviados para Portugal, serão enviados para o próprio consular, com uma mesa intermédia de apuramento, até para permitir que logo no dia das eleições estavam também os voluntários de imigração. Depois daquilo que eu ouvi nos últimos tempos, acredito que seja possível, mas também não deixa de ser verdade que quem vota são os deputados, quem vota são os grupos parlamentares. E dos deputados e dos grupos parlamentares, há muitos que fazem o diagnóstico, mas de uma forma lateral, quando hoje lhes faço a pergunta, vão aprovar ou não, não dizem. Portanto, vamos ter que aguardar. Eu quero acreditar que o movimento que se criou em torno desta questão durante esta campanha eleitoral permita que na Assembleia da República possamos encontrar os consensos necessários. Há aqui argumentos complicados. Um dos argumentos é que para as eleições legislativas nós podemos votar, 1,5 milhão de portugueses poderão votar, só conseguem eleger os 4 deputados, ou seja, há um teto, digamos um plafond. No caso das presidenciais e das europeias, vai tudo para um círculo nacional e, portanto, que 1,5 milhão de portugueses no estrangeiro tiverem a possibilidade de votar, poderão alterar o sentido de voto que poderá eventualmente ocorrer no território nacional. Eu lamento, ainda há dias houve um programa de decisão nacional em que eu participei na RTP, estava o professor contra esta possibilidade de podermos alargar o voto por correspondência às comunidades com este problema de quem está fora poder decidir por quem está dentro. Mas, meus amigos, eu sou português, os que me ouvem na Rádio Alfa também são portugueses, têm um conjunto de deveres, porque têm a cidadania portuguesa em relação a Portugal, mas também têm um conjunto de direitos. E se nós voltamos à nossa conversa desta tarde, aqui na Rádio Alfa, sobre a questão do dever cívico de votar, meus amigos, se há um valor importante em democracia associado à cidadania, é realmente o direito de voto. Com estes receios, aí criam-se espaços para populismo. Portanto, eu acho que é preciso ponderar e perceber quem está no estrangeiro e é cidadão português, tem um conjunto de deveres que tem obrigatoriamente cumprir, também tem um conjunto de direitos associados à cidadania, e um deles é realmente a possibilidade de exercer aquilo que é o máximo em plano democrático, que é poder votar. Portanto, eu quero acreditar que vai haver ponderação, que vai haver bom senso e que desta vez vamos encontrar na Assembleia da República uma convergência que permita aprovar esta proposta do PSD. Certamente poderá até haver propostas de outros grupos parlamentares semelhante à nossa, quero acreditar que sim, até seria positivo para facilitar esse consenso, e se fizermos isso, se calhar estamos também a convergir para uma solução que poderá também retirar espaço aos tais populismos que já falámos
nesta minha entrevista.
Carlos Gonçalves, uma última questão, e tem a ver com uma afirmação do embaixador de Portugal aqui em França, que vão propor isto na sequência da coordenação anual da rede diplomática e consular aqui em França. Numa entrevista, o embaixador afirma: vamos propor que haja um círculo único em que os membros da comunidade portuguesa podem votar onde lhes desse jeito e não propriamente ficando com uma obrigação de irem a um sítio em particular. Bom, é uma proposta que vai ser enviada para Lisboa. O que é que pensa desta ideia?
Essa ideia já está em cima da mesa há muito. Uhum. Essa ideia até, se quer que lhe diga, antes de votar, é a questão também de qualquer cidadão português, não só para votar, mas para fazer um cartão de cidadão ou passaporte, poder ir a qualquer consulado. É por isso que estamos à espera, de uma vez por todas, a questão do ato único consular, que devia estar completado no final de 2017 e início de 2018, e que ainda não foi concretizado, porque a empresa deu falência, perderam-se acho que cerca de 150 mil euros, tudo bem, mas isso para os documentos normais. Para o voto, esse voto de imobilidade é um voto, que poderemos chamá-lo assim, é algo que certamente poderá ser concretizável, até porque houve alterações na desmaterialização dos casernos eleitorais, hoje é tudo realmente feito de outra maneira, mas isso também obriga que na Assembleia da República possa haver um conjunto de conceitos. Mas nessa matéria, essa proposta que o Sr. Embaixador fez, porque tem tutela à área de jurisdição em França, mas é extensível a todos os países, certamente, eu acho que até as pessoas... Repare, o que aconteceu nestas eleições foi que o voto antecipado não se aplicou aos portugueses que residem no estrangeiro. E por causa da pandemia, nós temos muitos portugueses, sobretudo de alguma idade, que estão em Portugal, não estão em França neste momento, estão em Portugal. E, portanto, podiam ter ido votar se o voto antecipado que se aplicou ao território nacional estivesse aplicado às comunidades portuguesas, porque as comunidades portuguesas vão sempre em segundo lugar. E este é um debate no qual decorreu há pouco tempo na Assembleia da República, eu próprio chamei a atenção do meu grupo parlamentar, e todos os grupos parlamentares entenderam que era cedo para dar essa possibilidade aos portugueses que residem no estrangeiro, lá estávamos sempre com algum atraso. A proposta do Sr. Embaixador é uma proposta que eu considero fácil de resolver, e nesta matéria penso que haverá os conceitos necessários para que na próxima eleição votos antecipados, votos de imobilidade, tudo isso se possa aplicar aos portugueses residentes no estrangeiro, e espero que até lá também se comece a abrir novamente o debate, que nós vamos forçar esse debate, para a questão do voto eletrónico online, e eu aí estou com muita curiosidade para perceber o que vai acontecer nas próximas eleições francesas, porque a França teve voto eletrónico online para os expatriados, deixou de ter porque nas últimas eleições as coisas não correram bem, vai retomar o voto eletrónico online, e é preciso termos um grande país com uma comunidade no estrangeiro muito grande como é a França, que corra bem, para que aí os argumentos daqueles que estão contra possam também diminuir, no sentido de podermos também um dia avançar para esta questão do voto eletrónico, quer queiramos, quer não, seja no território nacional, fora do território nacional, vai ser um dia uma realidade. Não acredito que não vá ser uma realidade, porque hoje as novas tecnologias, sobretudo nos mais jovens, talvez seja a melhor forma de toda a gente poder participar, ou a grande maioria poder participar no voto eletrónico. Agora, as pessoas têm que entender que os políticos, e eu faço parte desse grupo, por vezes têm receio das novidades em termos eleitorais, porque se nós somos eleitos, ou se os políticos são eleitos desta forma, se vamos alterar, as coisas podem não correr da mesma maneira. E este receio do voto, claramente em relação ao voto dos imigrantes, porque neste momento é quase 1,5 milhão de eleitores, é este receio que tem limitado que no Parlamento Português possa ter havido os consensos, e aí dou orgulho de estar num grupo parlamentar que teve dois líderes de partido, Passos Coelho e Rui Rio, que nesta matéria não alteraram a posição do partido, sendo coerente com a história do partido, que as pessoas esquecem que todas as petições apresentadas no passado, as propostas que foram entregues, o PSD, e isto oriundo de muitas pessoas que estão no estrangeiro, algumas até já falecidas, como o Gilberto Fás, que foi jornalista também no Reino Unido, que ele foi o primeiro a apresentar uma petição na Assembleia da República para as questões eleitorais, e isto tinha a ver com a possibilidade, com uma tentativa que o Partido Socialista a acabar com o voto por correspondência também nas legislativas, mas depois o veto do Presidente da República, na altura, permitiu que tal não se concretizasse. E veja, 10 anos depois, estamos a discutir precisamente o contrário, a tentativa de alargar o máximo voto por correspondência.
Obrigado, Carlos Gonçalves. E, aliás, o único país na Europa que tem voto eletrónico é a Estónia. Mas, enfim, isso é outra história.
Pois é, por isso é que as pessoas percebem o que é que eu falo da França, porque a história é uma realidade muito pequena. A França já não é uma realidade pequena, é uma realidade muito grande, porque há franceses por todo o mundo expatriados. E foi pena ter corrido mal nas últimas nas últimas eleições. Mas pronto, vamos por etapas. Para já o voto por correspondência, e quero acreditar que o voto eletrónico, eu próprio, quando fui Estado de Estado, fiz a única experiência de voto eletrónico online que ocorreu em Portugal. Esperemos que um dia possa ser realidade.
Bom, nós estamos aqui para acompanhar isso a par e passo e para dar um empurrão igualmente. Carlos Gonçalves, muito obrigado e até breve.
Obrigado, até breve. Muito bom dia.
E dentro de alguns instantes vamos ao cinema, vamos respirar um bocadinho para já com a música, depois iremos ao cinema. Cinema é a maneira de falar, está tudo fechado. Graças ao Quito de Sousa, o tema Vivaldi, vamos nem mais nem menos ao cinema. Sei que é uma provocação, mas vamos a isso.
Alô? Salut, je m'appelle Pedro. Je veux faire un film.
Pardon? C'est Pedro?
Oui.
Pourquoi tu me filmes?
Je filme tout.
Moi, ce que je veux, c'est faire un film et vite. Tu es réalisatrice, toi?
Oui, oui.
Tu peux m'aider?
Bah oui, oui, carrément. Attends, juste. T'es en train de filmer, là? Ça me perturbe énormément ce truc, mais je sais que je suis assez fascinée par les grands acteurs à la Cassel, quoi.
Qui ça?
Vincent Cassel.
Vincent
Moi, j'adore
Cassel.
Ce type, ouais, j'adore ce type d'acteur.
Vous connaissez des comédiens?
Bah, je suis quoi? Moi, je suis équilibriste.
Ah, mais vous connaissez Vincent Cassel? Tu connais Vincent Cassel?
Ouais, je prends une douche avec lui après demain, c'est lui, je parle de toi.
Tu peux lui dire de venir?
Carrément, vous faites un film, c'est ça?
Ouais.
Vous voulez passer parce qu'en fait on est encore.
Non, j'étais juste en train de regarder.
Enfin, un casting en fait.
Cassel, Vincent Cassel.
Il est là. T'es comédien toi? T'es comédien?
Ouais, après, j'ai passé un casting il y a 3 ans.
T'arrives à me donner mauvaise conscience.
Mauvaise conscience?
Ouais.
Je m'entends pourquoi.
On va en faire une avec lui.
Ouais?
Non, Pedro, c'est raison, on va pas.
Non, mais c'est pas sérieux.
C'est quoi?
Laisse ma chance.
Mec. C'est bien, Patrice. Allez, il a le rôle. Tiens, moi je me casse.
Je suis censée être la réalisatrice. Alors pourquoi depuis le début sur ce projet j'ai un sentiment d'usurpation?
D'étoile en étoile, metteur en scène Antonio Amaral. Antonio Amaral, bonjour.
Bonjour Arthur.
Alors le film était bien sorti, mais pouf, mois de mars, confinement. Donc ça a tout arrêté.
Ouais, en fait, nous, on a eu de la chance parce qu'effectivement, on a été programmé février-mars au Saint-André des Arts à Paris.
Oui.
Et du coup, effectivement, on a une séance qui a sauté. On a eu vraiment un coup de chance parce qu'on l'est passé, on va dire, entre le mouvement de grève et entre le confinement. Donc, le film a quand même pu avoir quelques séances cinéma. Et puis, entre-temps, on a trouvé un distributeur et on est un peu dans les starting blocks parce qu'on attend que les salles ouvrent à nouveau pour remettre le film dans le circuit.
Alors là, le circuit, actuellement le film est dans le circuit des festivals. Et alors, dernier, si mes informations sont bonnes, au Festival international du cinéma indépendant de Casablanca, au Maroc. Donc, le prix du jury, c'est vrai?
Ça, en fait, c'était une très bonne surprise, évidemment. Alors, ce qui est intéressant avec le confinement, c'est que, alors, nous, on a eu la chance d'être sélectionnés dans une dizaine de festivals partout dans le monde. Maroc, Canada, Angleterre, Mexique, Espagne, enfin, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de festivals, du coup, qui se sont développés sur des formats en ligne. Et c'était le cas du Festival de Casablanca. Alors, c'est pas inintéressant parce que, du coup, pour des petits films comme nous, entre guillemets, ça permettait aussi d'avoir une diffusion assez large. Donc, c'est pas mal.
Alors, revenons au film, parce que le film, bon, alors, notre cher Eder, c'est, vous êtes venu ici à Radio FA avec Philippe Denisio. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que lui, il est partout pendant tout le film et on le voit jamais. On n'entend que sa voix. Donc ça c'est exprès, est-ce que finalement c'est pour dire quoi? C'est pour dire, bon, c'est pour dire que le film, bon, c'est la vie ou une partie de la vie d'un SDF, ce qu'effectivement on croise les SDF, ils sont là mais on les voit pas.
Ah oui, c'est la question de l'invisibilité sociale, donc c'était la meilleure façon de le mettre entre guillemets en image, c'est de jamais montrer le protagoniste, enfin le personnage principal de l'histoire. C'est aussi un pied de nez à tout ce qui est sur-représentation et sur-médiatisation, notamment via les réseaux sociaux, où on cherche à se montrer à tout prix. Donc forcément, c'est un pied de nez à tout ça, sauf que là, c'est l'inverse. On va jusqu'au bout de notre discours, c'est que le personnage, on le montre jamais, quoi.
Alors, le personnage, il est assez... Bon, il est malade, non ? Le personnage, il a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Il a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond. Il ne va pas bien, forcément. Il vit dans la rue. Bon, la vie dans la rue, ça amène à vivre dans des conditions qui fait que si on y reste, en général, on n'y reste pas très longtemps. On n'arrive pas à survivre très longtemps dans la rue. Donc, c'est aussi ça. Voilà. Donc, on raconte l'histoire d'un sans-abri, pour être précis.
Alors, c'est pas pour rien que le film il a été bon. Là, il fallait voir aussi les moyens, parce que je pense que ça a été difficile d'obtenir les moyens pour faire le film. Alors, il a été tourné totalement à l'extérieur, dans trois arrondissements de Paris, c'est ça ?
Totalement à l'extérieur, une petite partie en forêt, dans une forêt de Seine-et-Marne, parce que le personnage il a planté sa tente dans une forêt. Alors, c'était ça aussi le pari, c'était se poser la question, savoir si on a très peu de moyens, qu'on a une équipe technique et des comédiens motivés, et qu'on a une histoire qui est centrée vraiment sur très peu de choses, en fait. En gros, c'est l'histoire entre lui qui a une caméra et une jeune réalisatrice, et lui demande un coup de main, et la jeune femme se prend au jeu, elle essaie de lui donner un coup de main, et elle va se rendre compte que elle s'embarque dans une histoire un peu bizarre. Donc c'est vraiment un duo, hein. Le film repose sur un duo, donc sur quelque chose d'extrêmement simple. Et là, mon pari, c'est de savoir, est-ce qu'on va pouvoir faire un film comme ça? Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut marcher avec très peu de moyens? Et la preuve, c'est que ça marche, puisqu'on a une diffusion qui, pour l'instant, est au-delà de nos espérances. Voilà, donc...
Alors, mais apparemment, les acteurs, ils ont dû tourner dans le froid. Bon, c'était pas évident, hein, parce que vraiment, c'est pour coller davantage à la réalité d'un SDF, parce que c'est... Et en plus, il faisait mauvais.
Oui, il y a un petit peu de ça. Bon, on a tourné en hiver, dans le froid, donc forcément, bon, quand on est dehors, c'est moins confortable. Mmh. D'un autre côté, c'était intéressant, parce que ça a créé des liens. En fait, pendant le tournage, tout le monde était en train de se prendre dans les bras, de se réchauffer, etc. Donc c'était assez drôle, c'était assez marrant pour ça. Après, on peut pas non plus exagérer. C'était pas non plus des conditions extrêmes. Juste peut-être une scène qu'on a tournée du côté de rue de la Chapelle là, le soir, où là c'était un petit peu plus folklorique, parce que bon, forcément, pour ceux qui connaissent Porte de la Chapelle, le soir, voilà. Imaginez un peu c'est le seul moment qui a été un petit peu plus délicat, mais sinon globalement ça a été quoi.
Alors Antonio Moral, je vais prendre un petit extrait d'une interview de vous pour souligner l'enfermement dehors dans tous les sens du terme, c'est-à-dire on est dehors mais en même temps on vit enfermé. C'est ça la vie des sans domicile tout court. Parce que j'appelle sans domicile tout court, pas sans domicile fixe, ils ont pas de domicile. C'était un peu ça, l'enfermement dehors.
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que, bon, quand il suffit de se promener dans les rues, je veux dire, à un moment donné, on s'est posé, tous posé la question, et ça pourrait m'arriver, et si ça m'arrivait à moi Et c'est vrai que c'est une forme d'enfermement physique, se dire voilà, il y a des gens qui optent, il y a des mouvements, des gens qui collectivement optent pour la question du squat, mais ça demande un minimum d'organisation, ça demande un minimum d'entraide. Et effectivement, il y a des gens qui arrivent à ouvrir les portes entre guillemets de force et à s'organiser pour trouver des lieux où dormir, mais pour beaucoup c'est l'isolement Et c'est une forme de disparition. On est à l'extérieur et on disparaît littéralement aux yeux des autres, quoi.
Ouais. Alors, d'étoile en étoile, bon, attendons que les salles de cinéma rouvrent. Mais alors, entre-temps, le film, il a une suite, apparemment. Donc, vous préparez un long métrage. Cette fois-ci, c'est la question de la lutte des sans-papiers.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une suite. Ça s'est fait un peu par hasard. C'est un peu le hasard de la vie qui font que. Dans D'étoiles en étoiles, il y a une scène, effectivement. Bon, c'est la fameuse scène qu'on a tournée rue de la Chapelle, où il y a une intervention d'un jeune migrant qui vient donner un coup de main à Pedro, notre sans-abri, parce qu'il ne va pas bien. Et voilà. Donc, j'ai poursuivi la réflexion. Je me suis demandé dans quel sens j'allais pouvoir aller. Et je me suis dit, tiens, ce personnage-là de sans-abri, ça serait bien, si on creusait un peu la question, je me posais la question de savoir si on pouvait en faire un militant, si on pouvait en faire quelqu'un qui se mobilise pour les autres, qui pense pas uniquement à lui, mais qui se mobilise aussi pour d'autres, parce qu'effectivement, dans l'échelle de la misère, il y a plein de degrés, on trouve toujours plus pire que soi, entre guillemets. Donc il y a eu le confinement, il y a eu pas mal de mobilisation du côté justement des sans-papiers, des collectifs de sans-papiers. Et puis moi, je me suis retrouvé un petit peu à fréquenter ce milieu-là à partir du mois de mars, on va dire, 2020. Et puis je suis complètement rentré en immersion, on va dire, avec des collectifs de sans-papiers et en leur expliquant ce que je voulais faire, parce que voilà, c'était très clair dès le départ. Et donc voilà, on est en train de préparer la suite et qui va se focaliser sur un personnage de sans-papiers.
Alors, justement, par rapport à ce film, vous recherchez une comédienne pro ou pas d'origine portugaise de 70 ans et plus.
Tout à fait, parce que dans cette suite, on a un personnage principal à nouveau qui s'appelle Gilles. Il se trouve que ce personnage, il a une quarantaine d'années, il est d'origine portugaise. Et on a besoin d'une comédienne qui va jouer le rôle de sa mère, donc qui sera personne un peu âgée, j'ai envie de dire autour de 70 ans ou plus. Pas forcément quelqu'un de professionnel, ça peut être tout à fait quelqu'un d'amateur, mais qui a envie, qui aimerait faire ça. D'ailleurs, ça concerne une scène dans le film. Voilà, donc faut pas hésiter à prendre contact. Je ne sais pas si je dois donner un contact ici à l'antenne. Ou...
Je pense que le mieux, c'est peut-être grâce au Facebook. À ce moment-là, Facebook, vous tapez Antonio Corvo. Ok, bon. Antonio Corvo en privé, et voilà, je pense que c'est la meilleure chose. Non,
c'est très bien, c'est parfait. Donc, faut vraiment pas hésiter. Hein. Même si, parce que parfois, il y a des personnes qui ont eu envie, à un moment donné, de leur parcours, de faire ça, mais qui n'ont pas forcément eu l'occasion, ou qui font un petit peu de théâtre, ou qui ont fait un petit peu de théâtre. Donc, ça peut être quelqu'un de... Parce qu'on va travailler avec des professionnels, bien sûr, mais on va aussi, voilà, sur des plus petits rôles, faire parfois appel à des personnes qui le sont pas. Donc, on fera une rencontre, on fera un casting. Voilà, faut pas hésiter, surtout.
Antonio, merci. Donc, je rappelle pour les dames d'origine portugaise de 70 ans et plus, bien, qui ont envie de faire du cinéma, donc Facebook, Antonio Corvo, et vous allez tomber dedans, privé et tout. Antonio, merci encore, et on va,
bon, merci,
on va accompagner ce nouveau film, si vous voulez bien.
Bien sûr, avec plaisir. Avec grand plaisir.
Merci, et au revoir.
Bonne journée,
et
au revoir.
Merci, et bonne publicité d'abord. Ela aí vem devagarinho, calma.
Tout savoir sur l'arrêt du tabac avec Tabac Info Service. Entre 2014 et 2019, avec près de 2 millions de fumeurs quotidiens en moins, la France a enregistré une baisse historique du tabagisme. Docteur Nadia Lalou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin tabacologue, directrice scientifique de Tabac Info Service. Qu'est-ce que la période de Covid a changé concernant le tabagisme?
Alors, on a noté, d'après les observations de Santé publique France, que pendant le premier confinement, un fumeur sur cinq a diminué son tabagisme. Qu'est-ce que cela montre?
Que l'on peut réussir à arrêter de fumer, même en période difficile.
Oui, mais c'est quand même plus facile en étant accompagné.
Oui, il ne faut pas hésiter. Se faire accompagner par un professionnel de santé augmente les chances de réussir son arrêt de 70%.
Justement, alors, quelles sont les aides proposées par Tabac Info Service?
En appelant gratuitement au 3989, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé par un tabacologue. Mmh. Et vous pouvez avoir de nombreux conseils aussi sur le site de Tabac Info Service, son appli ou sa page Facebook.
Très bien, merci docteur Lalu.
Merci.
Carrefour. Chaque semaine chez Carrefour, découvrez nos produits frais à prix imbattable. Et oui, on s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Par exemple, jusqu'à ce soir, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, la barquette de 1 kg de viande hachée pur bœuf Carrefour Le Marché Origine France est au prix imbattable de 6,99€. Et si malgré tout vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour.
15% de matière grasse, modalité sur carrefour.fr.
Les moteurs e-tech hybrides sont nés chez Renault grâce à notre expertise en F1. Il a fallu des mécaniciens comme Alain, des ingénieurs comme Emma ou des pilotes comme Fernando pour concevoir la technologie Renault e-tech. Venez découvrir dès maintenant Renault Clio hybride et profitez aussi de Clio en version essence à partir de 129€ par mois avec EasyPack, 4 ans d'entretien et garantie inclus. Pour Clio Life SCE 65, LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer de 1 800€. Offre sous conditions de reprise jusqu'au 28 février si accordiac. Voir Renault.fr.
Cofidis présente préjugé numéro 11. Les offres alléchantes cachent souvent un loup. Ah ben non, en fait, il n'y en a pas.
Jusqu'au 15 février 2021, Cofidis propose le prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est tout. Mais attention, plus que quelques jours pour en profiter. Rendez-vous sur cofidis.fr. Le crédit qui fait la différence. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron,
On est dans les choux, c'est ça?
Ah bah dans le chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et dès demain, le chou-fleur est à 1,29€ la pièce.
Non.
Ah si patron, 1,29€ la pièce. Et origine France en plus, hein. Ah, le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire.
Mais ça te fait rien. Les soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Nos supermarchés sont livrés quotidiennement et vous accueillent en toute sécurité jusqu'à 18h. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Et on revient ici au direct. Tomorrow is today. Demain, c'est aujourd'hui. Le tourisme de Portugal a lancé un défi pour un tourisme plus durable. Jean-Pierre Pignel, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Alors, je rappelle, vous êtes directeur du tourisme du Portugal en France. Alors, justement, donc, vous avez lancé toute une opération, Tomorrow is Today, le vendredi 15 janvier, bon, plus ou moins. Bon, on est en plein confinement, donc le tourisme, bonjour. Donc, c'est-à-dire, vous êtes en train de semer pour récolter plus tard?
En fait, oui. La situation depuis le début de cette pandémie est très particulière pour nous, destination du tourisme, pour réfléchir sur notre stratégie de communication. Nous sommes obligés d'être réactifs et d'adapter à chaque fois, en fonction de l'évolution de la situation, bien notre communication. Lorsqu'il y a eu le début de la pandémie et que tout le monde devait rester à la maison, nous avons été d'ailleurs les premiers à lancer une campagne sur justement la sécurisation sanitaire. C'est le label Clean and Safe, sécurité sanitaire, ce fameux label que nous avons lancé nous déjà en tout début 2020, où l'idée était de dire lorsque l'on pourra revoyager, lorsque les frontières seraient rouvertes, ça c'était pour lors du premier confinement, eh bien le Portugal se prépare et tout est fait pour accueillir les touristes en toute sécurité. C'était une grande campagne qui a été d'ailleurs ensuite copiée par beaucoup de nos concurrents. Et c'était très important, donc, dans un premier temps, de rassurer les gens. Lorsque les frontières se sont réouvertes, donc mi-juin, eh bien là, nous avons repris des communications plus classiques où on disait, bah, venez chez nous, venez au Portugal. Et donc, on avait relancé les campagnes de communication plus classiques avec les tour opérateurs, avec les compagnies aériennes, les agences de voyage, etc. Donc là, on redevenait sur une campagne plus classique de donner envie de venir au Portugal. Lorsqu'ensuite, on a été reconfinés après, la fin de l'année 2020, nous avons arrêté ces campagnes et repris les campagnes dites d'image ou inspirationnelles, où là, on ne dit pas aux gens de venir passer les vacances au Portugal. Ce ne serait pas très convenant parce que les gens ne peuvent pas voyager. Et puis toutes les autorités, que ce soit les Françaises ou les Portugaises et autres, demandé aux gens de rester chez eux pour arrêter la circulation du virus. Donc nous avons repris des communications qui sont plus, on va dire, dans l'inspirationnel, c'est-à-dire donner envie aux gens pour voyager plus tard, quand ils auront la possibilité de le faire. Ça, c'était, on va dire, la première phase dans notre stratégie. Et puis, au fil donc des mois qui passèrent, on se rend compte que les gens discutent beaucoup sur que sera le tourisme de demain, finalement.
Tout à fait, ouais.
Quand tout cela sera terminé, on l'espère le plus tôt possible, quand on aura le virus derrière nous, eh bien, on se rend compte que peut-être que la consommation ne reviendra pas de la même façon. On se pose des questions, et c'est pas uniquement nous, le Portugal, on en discute beaucoup avec les Italiens, les Espagnols, beaucoup d'autres destinations, sur finalement, que vont rechercher les clients juste après cette pandémie? Est-ce qu'ils vont vouloir à nouveau se concentrer dans les centres de loisirs type hôtel-club? Est-ce qu'on n'a pas finalement, avec cette pandémie, réalisé que certains types de consommation étaient peut-être un petit peu dépassés? Est-ce que les gens vont vouloir vraiment rechercher plus peut-être le calme, la montagne? On l'a vu, hein, lorsque cet été, les frontières ont réouvertes. Les produits et les vacances qui se sont le plus vendues, c'est les vacances à la campagne, à la montagne, dans la nature. On se retrouve en famille, entre amis, et pas forcément dans les grands clubs où on est des centaines, voire des milliers de personnes les uns sur les autres, ou sur les plages bondées, etc. Donc, tout cela ramène à une réflexion, et c'est vrai que c'est pas d'aujourd'hui, hein, puisque le Portugal, avant même la pandémie, le tourisme du Portugal, nous, visite Portugal, donc, nous réfléchissions sur un tourisme plus durable, plus soutenable, plus écotourisme, comme on dit, hein, l'écotourisme, c'est-à-dire un tourisme plus réfléchi et
plus vert aussi.
Plus vert. C'est vrai qu'en général, dans le terme global de écotourisme, on y inclut un tourisme vert, un tourisme durable, un tourisme plus respectueux de la nature, un tourisme plus respectueux aussi des gens, c'est-à-dire des ressources humaines, des gens sur place. On a eu souvent des débats, vous savez, autour de Venise, le surtourisme à Venise, le surtourisme à Dubrovnik, vous savez. Donc, ce sont des questions dont la profession prend au sérieux, c'est-à-dire est-ce que finalement demain, on doit revenir sur ces modèles-là de surtourisme. Et à Lisbonne, par exemple, même si on était loin de situations comme on connaît à Dubrovnik ou à Barcelone ou à Venise, on n'est jamais arrivé à un stade aussi élevé de surtourisme.
Mais,
vous dites bien, et il faut anticiper, et on arrivait peut-être déjà à des situations où par moment, en haute saison, peut-être que on avait un petit peu aussi une pression touristique dans certaines villes, notamment à Lisbonne, oui, peut-être un petit peu moins à Porto, etc.
Alors, justement, Jean-Pierre Pignier, quand on voit un navire de croisière qui débarque 2-3 000 personnes, bon, il y a de quoi effrayer, hein, dans les rues de Lisbonne.
Effectivement, oui, c'est sûr. Alors bon, nous, on a encore une situation qui est gérable parce qu'on n'a pas non plus 5, 6, 10 navires qui arrivent comme cela régulièrement, contrairement à ce qui arrivait à Venise.
À Venise, oui, tout à fait.
Mais oui, on se pose la question. C'est évident que pour l'économie locale, pour les restaurants, etc., pour les boutiques, c'est un apport économique important puisque vous avez beaucoup de clients qui débarquent, c'est certainement au même moment, mais ils vont consommer dans les magasins, ils vont faire des sorties, etc., les restaurants, les bars, etc. Mais il faut évidemment limiter et avoir cela en compte. Mais au-delà de tout cela, au-delà de ces considérations, on va dire, qui sont plus opérationnelles, hein, ça peut se gérer, ça, en limitant les flux de bateaux qui arrivent, etc., ça c'est relativement facile. Mais au-delà de tout cela, on réfléchit déjà depuis quelques années à ce que sera justement le tourisme de demain. Et nous avons d'ailleurs le gouvernement portugais et Tourisme Portugal, ainsi que la secrétaire d'État au tourisme, présenté il y a quelques mois de cela, ce qui va être notre stratégie jusqu'à 2023, sur le tourisme durable. Donc là, c'est vraiment un plan très spécifique dédié à comment rendre le tourisme plus équitable sur la répartition aussi économique, hein, c'est-à-dire faire en sorte que les gens, les populations en bénéficient, que ce ne soit pas un fardeau pour les populations, mais que ce soit un plus pour les populations. Et c'est là que c'est important de réfléchir, c'est comment faire en sorte que le tourisme soit un bien aussi pour l'économie locale, mais soit aussi un bien pour la population locale. Donc, tout cela, ça nous emmène à une réflexion stratégique à long terme. à moyen long terme, et d'où la raison donc de ce plan que nous avons présenté il y a quelques mois de cela. Et en complément de tout cela, on s'est dit que puisque maintenant nous ne pouvons pas, nous ne devons pas communiquer sur venez nous visiter tout de suite, on va attendre que la pandémie se calme, eh bien on s'est dit c'est le moment de justement changer un peu les esprits et du consommateur et les inciter à réfléchir à un tourisme de demain. D'où cette campagne, le tourisme de demain pour un meilleur tourisme. D'ailleurs, c'est ça un petit peu le slogan de cette campagne, c'est « Faites un meilleur tourisme ».
Alors, Jean-Pierre Pétiel, c'est pas pour rien non plus qu'il y a un air musical dans les messages. D'ailleurs, les quatre premières vidéos de cette campagne sont déjà en ligne, entre autres, aussi en français. Alors, il y a la chanson. Wirtschtonskamps, Zeca Fons, il faut dire aussi que le poème, c'est de Louis Camoens. Wirtschtonskamps, donc on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure.
Tout à fait, c'est-à-dire que c'est ce message donc de respect de la nature, c'est-à-dire que le tourisme ne doit pas être opposé à la nature et à l'environnement. C'est-à-dire qu'il est possible de faire un tourisme respectueux de l'environnement et de la nature. Et c'est donc cela que l'on souhaite. Et le Portugal, depuis quelques années maintenant, on souhaite être en avant de cette démarche. On souhaite être le pays qui va montrer le bon exemple. Et c'est pour cela qu'on a lancé cette campagne. Parce que si vous remarquez, et si j'invite les auditeurs, s'ils le voient, ces vidéos passées sur les réseaux sociaux, notamment, ils remarqueront que, par exemple, les films sont faits avec des images, non pas du Portugal, c'est ça qui est assez audacieux, mais avec des images, par exemple, de la France. On a plusieurs déclinaisons. On a le film qui passe en France, où on voit, en fait, finalement, des destinations, des paysages de la France. Parce que le message que l'on passe, c'est de dire, tous ensemble, que ce soit la France, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, au-delà même de l'aspect de destination concurrente que nous pouvons être finalement, eh bien, ensemble, on doit réfléchir à un meilleur tourisme. Avant même de penser à uniquement promouvoir nos destinations, pensons à promouvoir l'idée d'un meilleur tourisme, d'une autre façon de se comporter et de consommer le tourisme. Et c'est ça que ce message fort, que l'on veut passer. Et puis en plus, vous le savez, et nos auditeurs le savent certainement, le Portugal a la présidence de l'Union européenne ce premier semestre 2021. Exactement. Donc c'est maintenant, on est en plein cœur de cela, et on se devait d'autant plus, on avait d'autant plus ce devoir de porter ce message universel, parce que nous avons cette responsabilité donc de présider l'Union européenne pendant ces six premiers mois. Et d'ailleurs, nous avons inclus dans le programme de cette présidence plusieurs réunions sur le thème du tourisme qui vont réunir l'ensemble des ministres et des gouvernements de l'Union européenne. Et ce sont donc des questions que nous voulons porter, nous, Portugal, et montrer l'exemple et vraiment être en avant de ces questions sur le tourisme et l'environnement et l'écotourisme.
Voilà, il y a probablement qu'on va parler de ce passeport de vaccination. Bon, ça c'est encore une autre histoire.
C'est encore une autre histoire.
Alors, Jean-Pierre Pinheiro, hello France, it's me tomorrow. On va directement sur YouTube, comment ça marche?
Oui, la campagne, elle est lancée sur les réseaux sociaux pour l'instant. Mmh. Alors, il y a une version en français, puisqu'en fait, c'est le tourisme de demain, un meilleur tourisme. Mmh. Et pour l'instant, donc, on veut laisser que la communication se fasse naturellement. On n'a pas voulu investir spécifiquement pour lancer cette campagne. On veut que ça se fasse naturellement et ça marche très très bien. On est en train de voir les premiers résultats. Il y a une belle adhésion à cette campagne. Les gens font des commentaires très positifs. C'est en train de fonctionner et même mieux encore, nous avons déjà des retours de certaines destinations concurrentes, comme la France ou l'Italie, par exemple, qui ont reconnu que c'était une belle idée et qu'ils étaient prêts aussi à rentrer un petit peu dans ce mouvement et à faire aussi un petit peu leur part du marché, si je puis dire, pour communiquer pour un meilleur tourisme.
Ben, espérons surtout qu'on puisse voyager.
Espérons-le, oui.
Jean-Pierre Pignel, merci. Je rappelle, vous êtes le directeur du tourisme de Portugal en France. Bon vent!
Merci à vous, voilà. et je souhaite un bon dimanche à tous les auditeurs, et puis on espère très rapidement pouvoir voyager librement, effectivement, un meilleur tourisme certes, mais de pouvoir voyager librement, sans masque et sans toutes ces restrictions qui sont vraiment pénibles.
Voilà, et remonter rue Tej, remonter rue Audemir, et bonjour, passez les meilleurs.
Voilà.
Merci, Jean-Pierre. À bientôt.
Merci à vous, à bientôt, au revoir.
E estamos a chegar às 13 horas e, bom, mais um bocadinho de Vivaldi. Acho que vale a pena. Quito Sousa, obrigado com a sua guitarra.
43 89 53 35. Rádio Alfa, 13 horas.
Bonjour à tous. Le protocole sanitaire renforcé à partir de demain dans les écoles. Les masques en tissu fait maison ne seront plus autorisés dans les établissements scolaires du primaire au lycée. Il faudra désormais se présenter dans les salles de classe avec des masques de catégorie 1, c'est-à-dire des masques qui doivent filtrer au moins 90% des particules, des masques chirurgicaux, jetables ou textiles. Une mesure mise en place pour tenter d'endiguer la propagation des variants jugés beaucoup plus contagieux. Le professeur Arnaud Fontané estime que le variant anglais sera majoritaire en France d'ici le 1er mars. L'épidémiologiste membre du conseil scientifique explique dans le JDD que d'éventuelles nouvelles restrictions vont dépendre de notre capacité à contrôler la progression de ce variant anglais. Mais selon lui, sans confinement, les chances de contrôler l'épidémie sont minces. Et si l'arrivée en France du vaccin d'AstraZeneca suscite un peu d'espoir, une étude à paraître demain remet en question l'efficacité de la solution développée par le laboratoire britannique. Selon le Parisien, le sérum serait moins actif sur le variant sud-africain. Il serait même totalement inefficace contre les formes légères et modérées de la maladie. Dans l'actualité, également à l'étranger, au moins 3 morts et plus de 150 personnes portées disparues en Inde suite à la rupture d'un glacier dans l'Himalaya, un effondrement qui a entraîné de grosses inondations dans le nord du pays. Les autorités redoutent un bilan humain très lourd. Des inondations également chez nous en France, 8 départements toujours en alerte orange ce dimanche pour crue, les Landes, la Charente-Maritime, la Charente, le Maine-et-Loire, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme. Situation particulièrement critique à Saintes où la montée des eaux menace plus de 2000 habitations. Le Nord et le Pas-de-Calais sont également en vigilance orange pour neige et verglas. Et puis le foot, un 100e classico sous haute tension. L'OM reçoit le PSG ce soir à 21h au Vélodrome. Sécurité renforcée autour du stade une semaine après l'assaut du centre d'entraînement de l'OM par ses supporters. 400 policiers sont mobilisés. Le PSG, de son côté, devrait pouvoir finalement compter sur Neymar. L'attaquant ne s'est pas entraîné hier à cause d'une gastro. Mais il figure bien dans le groupe qui a décollé ce matin depuis l'aéroport du Bourget. Voilà pour l'essentiel de l'info. Très bonne journée à tous.
Besoin d'une location d'appartement ? Avez-vous pensé à la location meublée ? Simplifiez-vous la vie et venez simplement avec votre valise. Nous vous proposons de mettre à votre disposition tout le nécessaire pour la location de votre futur appartement, du mobilier, l'électroménager, à la vaisselle de maison, en passant par la télé à écran plat, tout est compris. Profitez d'une situation exceptionnelle au pied du lac de Créteil, à proximité de Commerce et du métro Ligne 8. Contactez la société MGI, le professionnel de la location meublée, au 01 45 10 15 03. MGI, une autre vision de la location.
E tu, achas que tens uma voz bonita?
Ou até sexy?
Que chega a quem está longe?
Olá!
E que também fala ao ouvido?
Gostas de rádio e queres usar a tua voz?
Então participa no
casting de vozes
da Rádio Alfa.
Poderás vir a ser uma das nossas vozes.
Visita radioalfa.net ou as nossas redes sociais,
onde vais encontrar o texto para o casting.
Grava a tua voz,
mesmo com o teu smartphone, e envia para o e-mail
radio@radioalfa.net
ou através de mensagem privada na nossa página do Facebook.
Agora,
dá o teu melhor
e junta a tua voz à nossa.
À nossa.
À nossa.
À nossa.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie supermarché.
Allô, patron ?
Bien, Raph ?
Ah bah pour nous, oui. Mais pas dans les médaillons de filet de poulet de Lidl. Dès demain, les médaillons sont à 2,99€ les 400 grammes, au lieu de 3,99€.
Moins 25%.
Ah oui, et c'est de la volaille française.
Ah, on est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 7,48€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 16 février. Nos supermarchés sont livrés quotidiennement et vous accueillent en toute sécurité jusqu'à 18h. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Vous pensiez que c'était impossible qu'on vous recommande une banque. Mais depuis qu'on vous a recommandé Boursorama Banque, vous vous dites que tout est possible. Comme passer à la radio pendant que vous chantez sous la douche. Non, non, stop, ça va pas être possible. Mais au moins, vous savez que c'est possible de recommander sa banque. Chez Boursorama Banque, un client sur deux vient sur les conseils d'un proche. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Étude réalisée par Boursorama Banque sur la base des clients ayant ouvert un premier compte bancaire en 2020.
Leclerc.
Savez-vous qu'un bijou en or du manège à bijoux est toujours en or 18 carats 750 millième et toujours vendu à prix Leclerc? Et ça, c'est rarement le cas ailleurs. Alors si à la Saint-Valentin, vous voulez offrir un bijou en or 18 carats 750 millième vraiment pas cher, vous savez où le trouver. Pour exemple, les magnifiques boucles d'oreilles cœur en or jaune et rodier 0,72 grammes sont au prix tout aussi magnifique de 49 euros. Le manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats 750 millième. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Alors, je lis sur votre CV hobby, BMX, skateboard, longboard, kitesurf, photographie, et ça continue. Mais vous faites comment?
Je conduis le nouveau Mini Countryman.
Place à toutes vos passions avec le nouveau Mini Countryman édition suréquipée Northwood à partir de 370 euros par mois sans aucun apport. Exemple pour un Mini Countryman Cooper édition Northwood LLD 36 mois, valable jusqu'au 31 mars 2021. Conditions sur mini.fr.
Leclerc.
Ah carrément, 3 kilos de pâtes?
Ben c'est qu'après une journée de prise de tête au boulot, t'as envie d'une soirée cool.
Et
comme du 2 au 13 février pour l'achat de 2 paquets d'un kilo de pâtes Turini de marque Repère, le troisième paquet est offert.
T'en profites.
Voilà, comme ça le soir j'ai que des bravo maman, c'est trop bon maman.
Ah ok, donc là t'achètes 3 kilos de compliments.
Je vais me gêner.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Estamos já na reta final desta passagem de nível de domingo, dia 7 de fevereiro. E antes de falarmos de uma coisa muito agradável, Portugal, balade gourmande, receita, ar de vivre, nem mais nem menos, estamos no almoço ainda por cima. Antes disso, música com Pedro Branco, que tivemos a ocasião de entrevistar ainda algumas semanas atrás. Pedro Branco é o filho do José Maria Branco. O tema que escolhemos é qual?
Caminho, qual a paixão? O meu coração é ninho dos que vêm e dos que vão. Qual a viagem? Qual o segredo? Minha voz é a coragem de quem sente sempre o medo. Tudo sou sem nada ser, vida fora ardentemente, nada tenho sem morrer, tudo sou constantemente. Entre o estar e o prazer, à procura de quem sente a vontade de tudo ser. Destino, qual o amor? Meu sossego é desatino e por isso sou cantor. Qual a direção? Qual a enxada? Minha voz é a canção que dá luz à madrugada. Vida fora ardentemente, nada tenho sem morrer, tudo
De tudo ser. Sentido, diz-me qual que eu não consigo. Só mereço andar perdido se for assim contigo.
C'est l'heure du déjeuner. Bon, c'est exprès, je fais ça. Bon, je sais que j'ai faim, Manuel aussi. Et la plupart de nos auditeurs sont peut-être en train de manger. Tout ça à propos du livre Portugal, les balades gourmandes de recettes et arts de vivre, qui a été édité chez Mango. Justement, on a l'autrice, ou l'auteur, comme on veut, Sylvie De Silva, bonjour.
Bonjour, bonjour Arthur, bonjour Radio Alpha,
bon dia, boa tarde. Bon, alors, il y a 4 ans en arrière, on s'est baladé à Lisbonne. Justement, bienvenue à Lisbonne. Alors cette fois-ci, c'est une balade du nord au sud du Portugal.
Exactement, parce que je pense que les visiteurs, tous les amoureux du Portugal connaissent bien Lisbonne aujourd'hui. Et je me suis dit, ben, il faut qu'on les emmène ailleurs. Il y a le nord du Portugal avec la ville de Porto et puis ces villes plus provinciales comme Braga, Guimarães, Amarante, qui sont absolument fabuleuses. Il y a le centre aussi avec ses montagnes, ses riches vers Aveiro. Il y a l'Alentejo, très typique évidemment, cette terre de l'intérieur avec des gens bien du terroir. Et puis enfin l'Algarve et... avec, bien sûr, sa côte que tout le monde connaît, mais aussi l'intérieur qui est un peu plus confidentiel, qui est bordé d'arbres fruitiers. C'est un vrai jardin magnifique. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que les gens qui aiment le Portugal eh bien, aillent découvrir, en fait, les petits secrets, les produits, les gens qui façonnent, en fait, et qui font de cette gastronomie, en fait, un véritable coup de cœur.
Voilà. Alors, c'est vrai, quand on va au Portugal, bah, bon sang. Donc, le temps qu'on passe à table, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que bon, vous avez essayé de sortir quand même des sentiers battus. Bon, bien sûr, le nombre de plats qu'on connaît, mais vous avez essayé de trouver autre chose, c'est-à-dire sortir un peu du cliché des plats portugais.
C'est ça, en fait, on sait, on connaît les plats qui ravissent tout le monde. Bon, c'est Campo Calenjane, c'est évidemment toutes les recettes de morue, bacalhau à Gonça, Narcisse. Bon, mais il y a d'autres choses derrière. Il y a bien sûr le poisson, il y a la viande, hein, parce que les Portugais mangent aussi. Comme ils mangent beaucoup et tout le temps, ben, ils mangent autant de poisson que de viande. Hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ils sont aussi très gourmands. Ils aiment beaucoup les desserts, les douceurs des monastères, etc. Mais c'est vrai qu'aller prendre la voiture, aller questionner les gens, aller chercher les petites adresses, trouver des personnes, effectivement, le berger, le producteur de jambon, qui font des produits un petit peu différents et qu'on ne met pas forcément en avant. Moi, c'est ce que j'avais envie de faire partager à tout le monde.
Mmh. Bien, d'accord. Bon, oui, une petite découverte. Je ne sais pas si vous êtes passé par là. Odmir. Il y a un marché couvert. Bon, il était 10 heures du matin. Je me baladais avec ma famille. Il y avait une odeur qui arrivait. C'était quoi? C'était ce que vous appelez un sandwich au porc mariné, bifan. À 10h30 du matin, manger bifan. Ça, c'est un exemple avec les gens du cru.
Exactement. Alors, Abyssin, alors moi, Arthur, c'est pas ce souvenir-là, mais l'Abyssin, par exemple, quand on arrive au Portugal tous les étés ou quand on y va, c'est la première chose qu'on mange. Et moi, je suis du centre vers Nazaré, Caldas de Rainha, et sur la route nationale, la Nationale 1 que tout le monde connaît, il y a un énorme routier qui s'appelle le Bigotch. Et là, on arrive en force, on s'installe au comptoir, on mange la Bigotch qui est à tomber, parce qu'en fait, il fait son pain. Il fait le pain du jour, donc le pain est frais, la viande marinée un peu frite, délicieuse, et évidemment, on l'accompagne d'une super boc ou de Mapressan. Alors, avec modération, bien sûr, hein, forcément. Mais ça, c'est par exemple quelque chose de populaire qu'on peut manger aussi au marché ou dans toutes les bonnes tasques. Ça, c'est typique portugais. Et je pense que quand les gens ont goûté à Bifan, les McDo, c'est fini, c'est terminé. Enfin, je veux dire, c'est bien au-dessus, bien au-delà au niveau de la qualité et de la saveur, en tout cas.
Oui, et en règle générale, on mange toujours deux, minimum.
Oui, au moins minimum. Deux, alors si on l'accompagne d'une petite soupe, mais moi, mes enfants, par exemple, c'est deux minimum, ça, c'est sûr, c'est sûr et certain.
Alors, le livre, bon, c'est un voyage à travers le Portugal, mais c'est un petit peu aussi vos souvenirs, c'est vrai?
Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je suis passionnée de cuisine. C'est vrai que la cuisine portugaise, en fait, dès mon enfance, m'a montré, en tout cas, par mes vacances, etc., qu'il y avait une culture différente. Et elle passait par l'art de la table. Moi, j'ai toujours adoré manger, même toute petite. Et je servais un peu de cobaye, d'ailleurs, à mes cousins quand j'allais en vacances. Ils me faisaient goûter des trucs pas possibles. Et puis moi, j'étais toujours partante. Donc, j'étais bon public. Et c'est vrai que tout est passé d'abord par la cuisine. Et c'est pour ça que, pour moi, la cuisine est très importante. Elle raconte, en fait, l'histoire d'un pays. Elle raconte l'histoire des gens. Moi, c'est ça que je revendique. C'est une cuisine de quotidien. C'est une cuisine à partager. Et alors, le Portugal, pour ça, c'est absolument fabuleux. Donc, il y a des souvenirs qui sont vraiment liés à l'enfance, qui ont fait qu'il y avait un vrai dépaysement. Et là, j'ai compris qu'on pouvait faire des choses différentes. La sardinade au milieu de la pinède de Nazaré qui durait mais toute la journée. C'était un vrai convoi où on emmenait les pastèques, les melons, les galetons pour boire le vin, enfin la sardine grillée, c'était juste fabuleux. Les fêtes de Noël aussi, avec toutes les douceurs, avec tous les beignets, enfin tout ça, c'est vraiment les souvenirs d'enfance, c'est vraiment très très fort, et c'est ce que j'ai envie d'évoquer dans ce livre.
Ouais. D'ailleurs, quand on parle de douceur sucrée, bon, pastel nat, c'est très bien, mais il y a beaucoup beaucoup d'autres bonnes douceurs sucrées, non?
Ah oui, bah les Portugais, alors moi, ils m'épatent, hein, parce que vraiment, ils aiment les sucreries, ils aiment les desserts. C'est pas rare d'aller, effectivement, avec sa cousine, sa grand-mère, boire un petit galão ou un chabliment accompagné d'un petit gâteau. Il y en a plein. Il y a vraiment, au-delà du pachernat qui maintenant a une renommée internationale, il y a plein de choix. Et puis beaucoup de beignets aussi, parce que les beignets, bah, c'est l'été, c'est l'hiver, c'est tout le temps, en fait. C'est à la plage, c'est à la montagne, enfin, peu importe.
Oui, et surtout que le poisson est frais au Portugal, en plus. Bon, ça parle même.
Ça, c'est vrai.
Alors, Sylvie de Silva, alors, quand on parle de ce livre, il y a des recettes, il y a des photos. Et ça, il y a plein de photos, il y a et les couleurs, ça, je pense, bon, c'était déjà un petit peu avec le Bienvenue à Lisbonne.
Oui.
Donc, vous avez réussi que Mango vous donne les moyens et la couleur, parce que on dit que le Portugal, le noir, c'est une couleur, mais vous mettez plein les yeux.
Oui, en fait, on a voulu de ce livre, surtout dans un contexte un peu difficile aujourd'hui, on a voulu faire en sorte que les gens puissent s'évader, qu'ils prennent le large, qu'ils aient envie de voyager. Donc, c'est une invitation au voyage. Moi, j'ai parcouru le Portugal pour faire ce livre. J'ai fait 1500 kilomètres. Je suis allée voir les gens. Je suis allée à leur rencontre, découvrir des tout petits territoires absolument magiques. Et en fait, moi, j'emmène les gens. Pour emmener les gens, il faut l'avoir vécu. Donc, c'est ça, en fait, hein, que je propose. C'est au-delà des recettes. C'est vraiment une découverte du pays, de son patrimoine, de sa cuisine, et puis aussi de son art de vivre. Pourquoi les gens mangent comme ça? Quelles sont les traditions, etc. Ce qui explique, en fait, l'histoire et la typicité d'un pays. Son artisanat aussi, parce qu'il y a encore beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Et puis, un renouveau aujourd'hui avec, effectivement, des anciens métiers qui se perdaient, qui sont repris par la nouvelle génération. Donc ça, c'est vraiment super. Et donc, de la couleur, de la lumière, on en a besoin, hein, ça c'est sûr. Donc il y a des illustrations aussi qui sont faites par une illustratrice serbe qui est fan du Portugal. Donc on a eu vraiment de la chance. Des photos, alors des photos à moi, mais des photos aussi de d'agence bien sûr. Et puis ben voilà, du coup c'est un livre cadeau avec ben, vraiment une invitation au voyage.
Voilà, et avec plein de recettes. Mais enfin bon, alors il faut dire aussi bon que la cuisine, c'est une passion de votre part, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de Bienvenue à Lisbonne, 2016.
Ouais.
Après, il y a eu Bienvenue à Bruxelles, 2017.
Oui,
et à Bruxelles, bon, qu'est-ce que...
Ben, Bruxelles, moi, je travaille avec des Belges, alors...
Alors, un petit plat belge.
Qu'est-ce un petit plat belge, par exemple, la carbonade, qui est un plat traditionnel d'hiver, qui est en fait comme un espèce de bœuf bourguignon, sauf qu'au lieu de mettre du vin, on met de la bière, parce qu'on est en Belgique, mmh. Et puis on met aussi, juste en fin de cuisson, on met du pain d'épices, on laisse en fait fondre le pain d'épices, et ça, ça se mange avec des frites maison. C'est délicieux. Bon, on a faim, là, ça y est, on a faim.
Ouais, je pense
Arthur, attention.
On est ravis pour l'hiver. Alors, voilà. Donc, je rappelle Portugal, le valant de gourmand de recettes et art de vivre, Sylvie de Silva, aux éditions Mongo. Sylvie, merci, à très bientôt.
Ah, sans oublier, merci à vous.
Une petite référence aussi à notre bouquin, Les parents à table. Normalement,
c'est aussi. Oh, mais oui, ça c'est pour que les enfants se mettent à cuisiner et pour régaler leurs parents. Mmh. Voilà.
Bon, voilà, ça, comme ça, on peut inverser les rôles et les parents peuvent aller jouer ou regarder
à la
télé. Sylvie Dassilva, merci, à très bientôt. Non, mais il y a quelque chose qu'on va passer maintenant, parce que nous avions demandé une chanson, Cache do Carmo, Namoradas de Lisboa.
Voilà, c'est une spéciale dédicace à Arthur, parce que Arthur est un amoureux de Lisbonne, tout comme moi et comme plein de gens d'ailleurs.
Merci beaucoup. Tout le monde a des défauts. Sylvie.
Ah, mais exactement, c'est un bon défaut. À bientôt, je vous embrasse. Obrigada. Adios.
Namorados de Lisboa, à beira Tejo a sentar, a dormir na madragoa. Namorados de Lisboa, num mirante deslumbrados, à beira verdes acordados. Namorados de Lisboa. Ao domingo, uma cerveja, uma bebida salgada, uma boca que se beija e que nos sabe a cereja, a miséria adocicada, à beira-parque plantada, namorados de Lisboa. Sempre apaixonados, mesmo que a tristeza doa. Namorados de Lisboa, namorados de Lisboa. Na cadeira de cinema, onde as mãos andam à toa, à procura de poema. Namorados de Lisboa, que o mistério não desvenda, até que o escuro se acenda.
namorados de Lisboa, apertar num vão de escada o prazer que nos magoa e depois não sabe nada. Namorados de Lisboa, a morar num vão de escada. Namorados de Lisboa, sempre, sempre apaixonados, mesmo que a tristeza doa. Namorados de Lisboa.
Carmo, que ficará sempre associada a Lisboa, diz-nos adeus assim, mas nós não autorizamos, né? Enfim, pensamos sempre nele. E, bom, nós estamos a chegar ao final desta emissão, dia 7, contamos voltar aqui no dia 14. Obrigado ao Manuel Alexandre, bem-ajam, tomem as suas precauções, respeitem as regras sanitárias e, em certos sítios, na região parisiense, ao que parece que as coisas estão a escorregar um bocadinho. Bom, esperemos que a meteorologia nacional francesa se tenha enganado. É todo o mal que eu de me desejo a mim e a vocês. Bem-ajam, até para a semana e vou-vos deixar com o tema Velha Chica, dos Pontes e Valdemar Bastos, que também nos abandonou no ano passado. Bem-ajam e até para a semana.
E gengibre. Antigamente a velha Chica vendia cola e gengibre. E lá pela tarde ela lavava a roupa do patrão importante. E lá pela tarde
os miúdos lá da escola perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento. E nós os miúdos lá da escola perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pureza, daquele nosso sofrimento? Che menino,
che menino, não fala política,
não fala política,
não fala política.
Che menino,
che menino, não fala política,
não fala política,
não fala política,
não fala
política, não fala política.
Mas a velha Chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Mas a velha Chica, embrulhada nos pensamentos, sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento.
Che menino, não fala política,
não fala política,
não fala política,
não fala política.
Che menino, não fala política,
não fala política,
não fala política,
não fala política, não fala política.
Velha ficou, ela somente fez uma cubata com teto de zinco, com teto de zinco.
Che menino, não fala política,
che,
não fala política,
não fala.
fa la politica.
Se menino não fala política, não fala política,
não fala política.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
coração.